7h28, hier, le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé une série de mesures, donc après la tragédie de l'autoroute 440 à Laval, des mesures claires, donc ajout de radar photo, des nouveaux panneaux de signalisation, le marquage qui sera revu et, bien sûr, une surveillance policière accrue. Et ce secteur de la 440, c'est pas le seul endroit qui est problématique, on le sait. Alors, il est avec nous ce matin. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, ce que je comprends, ce sont les premières mesures et il y en aura d'autres dans le futur, là.
Oui, avec la tragédie, nécessairement, il fallait agir rapidement. On sait que c'est un secteur névralgique en termes de circulation. Près de 300 000 automobilistes qui circulent à l'échangeur de la 15-440. C'est aussi important que Turcot et Descaries. Et suite à l'accident, puis on le sait, la configuration de ce secteur date d'une cinquantaine d'années. Il y avait beaucoup moins de véhicules, voilà, 50 ans qu'aujourd'hui. Puis, dans les circonstances, avec les équipes, on s'est assis rapidement, quelques heures après la tragédie, pour voir de quelle façon on pouvait assurer une meilleure sécurité, un flot de circulation quand même important, et de s'assurer qu'il y a une certaine fluidité, encore une fois, là, dans ce secteur. Donc, les premières choses, vous l'avez dit, c'est de peinturer puis d'allonger la ligne en continu de 20 mètres. On ne pouvait pas aller plus loin que ça sans affecter ceux qui sont dans la voie de gauche puis qui veulent à la dernière minute entrer, mais de façon légale. Et la présence policière, bien, juste hier, on me disait que déjà, encore une fois, il y a certains automobilistes qui traversaient cette ligne pleine, même si elle n'a pas été repeinturée encore une fois. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura plus de police. Des panneaux de signalisation à 2,5 km, à 500 mètres aussi, donc pour indiquer aux gens qu'il pourrait y avoir de la congestion. Puis des radars automobiles, bien écoutez, dans la voie de gauche, d'ici 30-40 jours, dans ce secteur, il y aura un radar pour demander aux gens de réduire la vitesse nécessairement. Alors, on n'empêchera peut-être pas, encore une fois, un accident, je le souhaite pas, mais je pense qu'on avait à mettre en place des mesures pour sécuriser le secteur, puis de s'assurer, encore une fois, que les gens qui vont passer là à partir de maintenant se disent, bien, OK, on a à faire attention, c'est névralgique, il faut garder une certaine distance. Puis c'est toujours plate de materner les automobilistes puis les camionneurs, mais on n'a pas le choix, il faut leur répéter de garder une distance sécuritaire entre eux autres.
Mais on ne sait pas encore, là, parce que l'enquête n'est pas complétée. Je comprends que c'est un endroit qui est mal dessiné et que, compte tenu des changements, c'est encore plus à risque, là, l'augmentation du nombre de véhicules. Mais c'est peut-être un chauffeur qui était inattentif, c'est peut-être un chauffeur qui était en train de texter, qui, en tout cas, si on se fie à ce qu'il y avait dans le journal de Montréal hier, qui n'avait pas les mains sur le volant. Mais ma question la plus importante, vous pensez à quoi? Là? Vous me dites, on va regarder ça pour le futur. Voulez-vous reconstruire l'endroit vraiment de A à Z?
Premièrement, il est certain que ça, c'est des mesures à court terme. Vous allez le voir, là, d'ici 30 jours, tout sera fait.
OK.
De l'autre côté, il y a des mesures à long terme qu'on va étudier nécessairement. Puis la première chose, les gens qui nous écoutent, il y en a certains hier qui me disaient « Pourquoi vous la fermez pas? » On l'a étudié. Puis la fermer, cette sortie, aurait causé des bouchons encore plus importants en amont à la sortie 24. Donc, dans les circonstances, on s'est dit « On va mettre des mesures de sécurité en place, on va la garder ouverte. » Maintenant, dans le futur, est-ce qu'on peut revoir cette sortie? Est-ce qu'on peut l'allonger, si je peux dire ainsi? Est-ce qu'on peut installer des panneaux qui illuminés, là, qui disent « Préparez-vous à arrêter ». Alors, c'est tout des petites choses, des systèmes de détection de file d'attente. Alors, on va regarder dans les prochains mois, début de l'hiver, là, j'aurai un rapport pour voir de quelle façon on peut reconfigurer peut-être le secteur. Mais oui, demain matin, on me disait « il faut tout refaire ». J'en conviens, on investit 4,8 milliards sur le réseau dans les deux prochaines années. Ce secteur qui est névralgique a été fait voilà 50 ans. Est-ce qu'un jour on devra tout refaire? Ben, on va l'étudier nécessairement, mais à court terme, moyen terme, présentement, il faut sécuriser ce secteur du réseau supérieur.
OK, il y a d'autres endroits qui sont dangereux. Et encore hier, sur la 132 qui mène vers le tunnel La Fontaine et l'autoroute 20, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une voie pour prendre la sortie, puis il y a des gens qui coupent, puis il y a même des gens, j'ai des photos de mon collègue Marc Brière, où les gens sont immobilisés dans la voie de centre sur une autoroute, ça n'a pas de bon sens. Pensez-vous appliquer ce genre de mesures que vous faites pour Laval dans d'autres endroits au Québec?
Tout à fait. Dès le lendemain, j'ai demandé au sous-ministre qui a envoyé le message à toutes les directions territoriales partout au Québec où il pourrait y avoir des situations névralgiques. Puis des situations comme celle-là d'une ligne pleine, c'est exactement l'exemple que je donnais suite à l'accident de la 132. Tout le monde a déjà passé là. Vous avez une ligne pleine qui est longue, ma foi, d'à peu près 2,5 km. Puis là, ben ça, c'est la troisième voie. Puis la quatrième à droite, on la prend pour aller utiliser puis prendre l'autoroute 20 vers Québec. Mais combien de fois on attend avec le lieu comme ça, en bon automobiliste, puis on voit quelqu'un arriver dans la voie de gauche, puis on l'a peut-être tous déjà fait rentrer à la dernière minute, on oublie que la sortie était là, c'est une ligne pleine, puis là, bon, on cause un freinage brusque, puis peut-être un accident. Je n'empêcherai pas la bêtise, malheureusement, dans le futur. Il y en a peut-être toujours qui vont le faire. Mais encore une fois, la présence policière, si je pouvais avoir des radars qui pouvaient prendre les gens quand on enfreint la loi, qu'on traverse cette ligne en continu, on n'est pas encore prêt à avoir ça. On a des radars photo pour la vitesse, mais dans les circonstances, je pense que les gens doivent prendre conscience que c'est extrêmement dangereux quand on fait un freinage brut comme ça, puis qu'on a une ligne en continu qu'on connaît, là, puis qu'on voit là, qui est presque de 2 km de long.
Alors, moi, ma théorie, M. Bonnardel, c'est que les gens comprennent quand ils ont peur, c'est-à-dire peur de payer des amendes. L'alcool au volant, ça a changé le jour où on a dit « Hey, c'est criminel, puis tu peux perdre ton permis de conduire. » Là, oups, tu dis attention. Puis dans le cas, là, il le voit tous les matins, là, puis je sais, là, vous ne pouvez pas, avec une baguette magique, changer le comportement des gens. Mais pour des camionneurs, c'est extrêmement dangereux. Pour des automobilistes, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas des gens qui n'ont pas vu la sortie. C'est des gens qui essaient de, comme on dit en chinois, de bypasser le système.
Ah oui. Ah non, je suis entièrement conscient de tout ça. Je le vois, je suis sur le réseau routier. On fait 70 000 km par année, puis je le vois encore. Puis malheureusement, je risque d'en revoir encore. Puis justement, hier, là, les policiers, j'en ai vu à la télévision, les automobilistes qui se sont fait arrêter encore une fois. Donc, comme je le disais, les directions vont regarder un peu partout sur le territoire où il y a des situations un peu similaires ou des secteurs peut-être un peu plus accidentogènes. On pourrait refaire donc le marquage, allonger peut-être une ligne, présence policière peut-être accrue. Puis je les remercie parce qu'encore une fois, depuis le début de l'année, c'est plate, mais il y a à peu près 320 contraventions qui ont été données aux automobilistes. Donc, on leur a demandé d'être capable d'être un peu plus présents dans les prochaines semaines. Ils ont dit oui. Alors, on verra le résultat, mais je souhaite encore une fois un bilan routier qui s'améliore année après année. Puis oui, c'est le cas, mais dans les circonstances, on ne peut pas empêcher nécessairement des contrevenants.
OK, deux, trois questions sur des dossiers différents. Il arrive quoi avec l'industrie du taxi, là?
Ah, bien, M. Arcand, on continue l'étude détaillée du projet de loi. On recommence la dernière semaine de août. Donc, on est à l'étape de l'étude détaillée. Encore une fois, il reste plusieurs articles à discuter avec les oppositions. Alors, c'est pas terminé encore.
OK, mais mettons que, et je sais qu'ils sont nombreux, là, des chauffeurs de taxi qui vous écoutent ce matin, là, la question qui se pose, à quel moment vous pensez que ça va se régler? Et est-ce que le chèque va être envoyé? Avez-vous l'intention de le bonifier?
Ben non. Premièrement, la somme de 800 millions est importante. Je pense que ça respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup la capacité de payer des Québécois. Là, on n'ira pas plus loin que ce montant qui est important. D'un autre côté, c'est difficile pour moi de vous dire quand ça va se terminer précisément. Ben, j'ai besoin de l'appui nécessairement de l'opposition. Puis comme je l'ai mentionné, pour moi, un projet de loi peut être bonifié. C'est ce que j'ai déjà fait à date, autant avec Québec solidaire, le Parti québécois que le Parti libéral. Je pense que dans les circonstances, je l'ai maintes et maintes fois mentionné, dont sur vos ondes, voilà, presque 6-7-8 mois, là. On est à une étape là où on amène l'industrie complètement ailleurs. Puis dans les circonstances, tous les joueurs vont faire de l'argent. Je veux qu'ils fassent de l'argent et qu'ils soient capables d'avoir encore une fois donc une législation qui va être conforme aux prochaines années.
Là. OK. Il y a un décret qui a été, un arrêté ministériel qui a été publié cet été dans la Gazette officielle et qui... autorise maintenant ce qu'on appelle des véhicules militaires à circuler sur les routes. Là, je comprends qu'il y a des critères, là, mais pourquoi vous avez autorisé ça? Parce qu'on me dit que dans plusieurs États américains, c'est interdit.
Oui, ils ne peuvent pas utiliser les routes au-dessus de 70 km/h. Donc, ces petits véhicules qui sont possédés par des gens qui aiment ce genre de camion ou de jeep, si je peux le dire ainsi, de l'armée, là, peuvent circuler dans des villes ou des routes où il y en a une vitesse maximale de 70 km/h.
Mais ça, c'est arrivé comment? Qui c'est qui vous a demandé ça?
Ben, il y a plusieurs personnes au Québec qui matriculent ces véhicules, qui vont dans des expositions. Exemple, chez nous, à Granby, le Festival des voitures anciennes, c'est le plus gros au Canada. 30-35 000 personnes qui sont ici pendant 3 jours. Alors, il y a plusieurs personnes qui font ces shows entre eux un peu partout au Québec, en Ontario, ici et là. Donc, ces petits véhicules, là, jeep, militaire ou route, là, peuvent circuler sur des voies de 50 km/h jusqu'à 70.
OK. Donc, il y a des critères. On ne verra pas passer un blindé, là.
Vous n'aurez pas de pain sur la 440, ne vous inquiétez pas.
Ça, c'est un peu ça la question. Mais l'autre truc, ce sont des gens du canton de Potton qui m'ont écrit. Et là, c'est la municipalité qui permet à des véhicules dits hors-route, là, comme motocross, bon, motoneige l'hiver et autres, là, de circuler sur les voies dont la municipalité est responsable à peu près 170 km. Êtes-vous d'accord, parce que je pense que vous auriez le pouvoir de l'interdire, là.
Ouais.
Êtes-vous d'accord avec ça, que des motoneiges puis des motocross roulent avec les autos puis les vélos?
Ben, il faut faire attention. Potton le permettait depuis des années déjà. Il y a d'autres villes, si je me trompe pas, là, qui permettent aussi les motoneiges dans l'hiver, là, dans différents secteurs de leur ville. Donc, j'ai eu vent là, de cette situation. Il n'y a pas de décision finale qui a été prise encore là-dessus. Mais j'en conviens là, qu'il y a une problématique pour peut-être certains citoyens là, de ne pas vouloir voir ces véhicules autant l'été que l'hiver dans le canton de Potton. Là. Alors, on va vérifier, on va voir la suite des choses. Mais j'en conviens que présentement, là, il y a un peu une bataille entre différents citoyens qui voudraient pas voir ces véhicules. Mais la municipalité le permet depuis un certain nombre d'années déjà. Là.
Mais vous en pensez quoi?
Ben moi, honnêtement, c'est certain que la configuration, je connais pas le village et la situation comme telle, là, mais une configuration où tu permets des motoneiges l'hiver, moi, je peux pas m'imaginer non plus, là, puis encore une fois, je connais pas le secteur, là, qu'un véhicule peut se côtoyer un skidoo ou un quatre roues juste à côté ou en plein milieu. Alors, j'ai pas eu vent là encore, j'ai pas eu rapport complètement de cette situation. Je l'ai vu dans les journaux ce matin, puis je sais qu'il y a eu des discussions entre la MTQ et Potton dans les dernières semaines, mais il n'y a pas de décision finale qui a été prise.
Mais je vous écoute, là.
Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'assurer la sécurité des automobilistes, surtout des piétons, et nécessairement des cyclistes, s'il y en a dans le secteur, dans ces circonstances, être capable d'avoir tout le monde qui est sur le même réseau routier, ça peut être problématique, ça, j'en conviens. Mais encore une fois, là, il n'y a pas de décision finale qui a été prise.
OK, parfait. Merci, M. Bonnardel.
Okay.
Merci, bye-bye. Bonne journée. François Bonnardel est le ministre des Transports. 7h40.